RFI, 7h42, en temps universel. La suite des RFI Matin, c'est le journal des sports. Avec vous, Olivier Pron, on commence avec du basket ce matin et la Basketball Africa League du côté de Kigali.
Oui, c'est la dernière phase de conférence de cette balle, la Basketball Africa League, donc comme vous l'avez dit. La conférence du Nil, en l'occurrence, elle débute ce samedi 17 mai à Kigali, au Rwanda. Quatre équipes s'affrontent pour obtenir une place pour la dernière étape prévue en juin en Afrique du Sud. Les Libyens d'Al Ahly, les Kenyans du Nairobi City Thunder, les Sud-Africains du Medbayball Basket Ball, et enfin à domicile, les Rwandais de l'APR Club. Je ne sais pas qui trouve les noms de tous ces clubs, mais ça va être un travail vachement intéressant. Des Rwandais donc de l'APR qui ont tout approuvé après une édition 2024 où l'aventure s'était arrêtée avant la phase finale. Lucie Mouillot dans la capitale rwandaise.
Concentration, détermination pendant les derniers entraînements des APR avant le coup de sifflet du premier match. William Robbins, capitaine de l'équipe, est bien décidé à prendre sa revanche sur la dernière saison.
On arrive plus fort cette saison, et puis il y aura les fans, le sixième homme, ça va vraiment nous aider. On a un bon équilibre, je pense que ce sera difficile de défendre contre nous, de nous attaquer aussi, parce qu'on a en plus une bonne défense. Et puis cette année, l'équipe ne va pas tourner autour d'un seul joueur star, je pense que c'était le problème l'année dernière.
Des joueurs stars comme l'américain Noël Obadia, blessé pendant les qualifications de la saison 2024. Cette année, l'équipe est mieux préparée, notamment avec certaines nouvelles recrues comme le jeune malien Aliou Dara ou le pivot sénégalais Youssou Ndoye, affirme James May Jr., l'entraîneur principal des APR.
Ils apportent de la densité physique, de la taille, une vraie présence au panier. Je suis sûr que l'équipe n'avait pas ça l'année dernière. Cela permet à nos shooters d'avoir un peu plus de liberté défensivement. Ça nous permet aussi de protéger l'arrière du terrain. C'est un vrai atout au rebond, l'un des points faibles de l'équipe l'an dernier. Il y a une très bonne énergie dans ce groupe, de la confiance. On a beaucoup travaillé et je pense qu'on est prêt.
Pas question pour les APR de passer à côté des qualifications, surtout pas à domicile. Objectif, devenir la première équipe rwandaise à atteindre la finale de la balle. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Début de cette balle donc ce samedi à Kigali.
Du foot à présent, direction le Cameroun qui pleure l'un de ses illustres anciens joueurs.
Ouais, pluie d'hommage au lendemain de la disparition d'Emmanuel Koundé. En effet, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, 127 sélections, ce qui n'est pas rien, vainqueur de deux CAN, ça l'est encore moins, 84-88. Est décédé ce vendredi des suites d'un arrêt cardiaque. Il avait 68 ans, longtemps pensionnaire du Canon de Yaoundé, passé brièvement aussi par la France, Reims et Laval. Il a laissé de nombreux souvenirs à ses coéquipiers tant en club qu'en sélection. Un mot d'athlétisme, Julien, pour terminer, saluer la rentrée sur 200 mètres à Doha, au Qatar, de Letsile Tebogo, le Botswanais, champion olympique l'été dernier à Paris sur le demi-tour de piste. Il s'est imposé sans forcer, 20 secondes, 10 centièmes, devant l'américain Lindsay et le libérien Fanboulet Tebogo, qui voulait passer sous les 20 secondes, a levé pourtant le pied dans les derniers mètres pour observer l'INSEE à sa droite. C'est son droit. J'ai l'envie.
Oui. Merci beaucoup, Olivier Pron. Bonne journée à vous. En menace sur l'information, cap sur la Jordanie cette semaine, pays 147e sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Le royaume a perdu 15 places en seulement un an, en cause notamment une loi sur la cybercriminalité devenue un outil de répression des journalistes critiques. Le texte adopté en septembre 2023 est qualifié de liberticide par RSF. Rencontre ce matin avec deux journalistes qui en ont fait les frais et passé plusieurs mois derrière les barreaux. La suite, c'est Alice Froussard qui nous la raconte.
Ce son, c'est celui d'une vidéo sur laquelle des Jordaniens manifestent dans les rues de leur capitale, Amman, contre la loi relative à la cybercriminalité. Nous sommes en août 2023, quelques mois à peine avant que la Jordanie ne promulgue cette nouvelle loi controversée. Diffusion de fausses informations, atteinte à la réputation, menace à la paix sociale ou encore mépris des religions, toutes ces infractions en ligne ont désormais de nouvelles définitions extrêmement larges et sont passibles de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Si la loi ne cible pas directement les journalistes, ils sont les premiers à en faire les frais. C'est le cas d'Ahmad Hassan Al-Zoubi, commentateur satirique de 50 ans, fondateur du site d'information Sawalef et longtemps chroniqueur dans le quotidien d'État Ar-Rai. Il ne mâche pas ses mots dans ses vidéos. Écoutez cet extrait qui date d'avant son arrestation.
Il y a des gens qui tentent d'en finir avec l'injustice. injustices de notre pays, mais ils sont toujours remplacés par des pantins qui ne font que oui de la tête, qui ne valent que ce que leurs mains peuvent prendre, car ce sont des esclaves de leurs intérêts personnels.
Le 2 juillet 2024, le journaliste est arrêté, placé dans la prison de Marka à Amman, condamné un an plus tôt après avoir posté un message sur les réseaux sociaux critiquant la gestion par les autorités jordaniennes de la grève des chauffeurs routiers à Ma'an, au sud du pays. Il n'est relâché que 6 mois plus tard, en janvier dernier, après des conditions de détention atroces. Pour la justice du royaume hachémite, Ahmad Hassan al-Zoubi était coupable d'avoir, je cite, « incité à la discorde entre les membres de la communauté ». Un crime, selon l'article 17 de cette loi sur la cybercriminalité. Une loi qui donne surtout un très mauvais signal pour la liberté d'expression du pays, estime Marwa Fatafa de l'organisation Access Now.
Ce sont des sanctions très disproportionnées. Et cela implique aussi qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez plus non plus demander à un gouvernement ou à des forces de l'ordre de rendre des comptes. Imaginez un scénario, et c'est déjà arrivé en Jordanie précédemment, où les manifestants ou les journalistes documentent des violences policières. Je pense qu'avec cette loi, un tel acte pourrait vous mettre en danger alors que vous ne faites que filmer ou relater une ou des violations des droits de l'homme.
Le 13 mai 2024, la journaliste Hiba Habutaha a quant à elle été arrêtée et détenue à la suite d'un article d'opinion sur les liens entre la Jordanie et Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Elle n'est sortie de prison qu'en février dernier.
Alice Froussard pour Menace sur l'information. Bonjour Jean-Baptiste Plaquin.
Bonjour Julien Coquelle-Rohem.
C'est par un décret lu à la télévision nationale ce 13 mai que le pouvoir de Bamako a dissous les partis et les organisations politiques du Mali. De son côté, au Gabon, Brice Oligui Nguema a annoncé au chef de parti le 6 mai des réformes visant à réduire le nombre de formations avec des critères plus contraignants pour la création d'un parti. Peut-on assimiler, comme le font certains, ces deux décisions ?
Entre la démarche de la junte malienne et celle du président élu du Gabon, aucune comparaison possible. D'un côté, un pouvoir militaire sans l'onction démocratique se débarrasse de ce qui le gêne ou ne lui convient pas dans la vie politique. De l'autre, un président certes également parvenu au pouvoir par un putsch, mais qui a attendu d'être réhabilité par le suffrage universel pour engager, seulement engager, des consultations visant à réduire, sur la base de critères plus rigoureux, le nombre de formations. Pour le reste, la pléthore de partis politiques est préoccupante au Mali comme au Gabon et dans bien trop de pays africains. 300 partis pour 23 millions d'habitants au Mali, quelques 106 formations pour seulement 2 millions d'âmes au Gabon. C'est d'autant plus affligeant que dans la réalité, la part de la population adhérente effectivement à ces partis représente rarement plus de 10% de l'ensemble. Mettre de l'ordre dans ce capharnaüm relève de la salubrité publique. Et justement, parce qu'il s'agit de salubrité publique, ce ne peut être l'œuvre unilatérale du seul pouvoir du moment, a fortiori lorsqu'il est issu d'un putsch. Pour emporter l'adhésion de tous, les décisions qui engagent autant une nation requièrent un minimum de consensus.
N'est-ce pas ce que suggérait cette semaine sur RFI l'avocat malien Mamadou Ismaïla Konaté qui s'interrogeait sur les motivations du général Assimi Goïta ?
Maître Mamadou Ismaïla Konaté est un sujet brillant, articulé et d'autant plus crédible que nul ne lui connaît d'affiliation politique. Ancien garde des Sceaux, il est un des rares ministres à avoir eu, durant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, le courage de démissionner quand les autres se faisaient congédier. Ces dernières années, sur les réseaux sociaux, pendant que beaucoup se taisaient, lui rappelait aux inconditionnels de la junte le côté risible de certaines de leurs incohérences. Comme lui, beaucoup se demandent en quoi concrètement la suppression des partis politiques sert les intérêts du peuple malien. La démarche des Gabonais semble bien plus cohérente qui laisse à un président élu l'autorité, non pas pour tout abolir, mais pour engager des consultations et un chantier visant à assainir cet environnement sur des bases rigoureuses pour plus de représentativité des partis d'ici aux législatives.
Ces restrictions ne sont-elles pas par essence un frein à la liberté ?
Aux États-Unis, pays de quelque 340 millions d'habitants, la vie politique est régie par deux grandes formations. Certes, il y a quatre partis dits partis tiers et une petite trentaine périphériques dits partis nationaux, mais dont on ne parle qu'accidentellement sur l'échiquier politique. À part quelques grandes déceptions survenues ces derniers temps, la démocratie américaine fonctionne en général plutôt bien. Au Nigeria, pays de 230 millions d'âmes, deux partis dominent la vie politique, en plus d'une petite dizaine de formations végétatives. On pourrait aussi citer le Ghana, 33 millions d'habitants et seulement deux partis politiques majeurs. La démocratie y est vivante, davantage que dans toutes ces nations africaines, où chaque groupe ethnique, chaque région dispose de son parti. Assainir cette jungle est un impératif, mais en la matière, les réformes durables et bénéfiques sont celles qui s'appuient sur un vaste consensus démocratique. Ce que déplorent les Maliens, c'est que d'autorité, une junte démolisse tout sans avoir pensé l'avenir. Un peu comme dans ces armées où on ne commence à réfléchir qu'une fois le coup de feu parti. Dans un pays où tant de jeunes sont morts depuis mars 1991 pour la démocratie, cette méthode est juste consternante.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. Que nous évoquent les mots? Comment résonnent-ils en nous? Avant de nous dire au revoir, chaque samedi, des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher. À Lucie Bouteloup, sur RFI, c'est un mot, une histoire.
C'est un mot employé par les jeunes, mais pas que, qui veut dire beaucoup, 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 très. C'est très important. Et qui vient du Sud, et qui vient de Marseille principalement.
Ce mot, dont il a choisi de nous parler, vient de faire son entrée dans la nouvelle édition du Petit Robert qui vient de paraître. Il fait partie des 150 nouveaux mots du dictionnaire. Des mots du français commun, de toute la francophonie, mais aussi des régionalismes. Avec cette année à l'honneur, ceux qui viennent du sud-est de la France et plus particulièrement de Marseille. Le sociolinguiste Médéric Gasquet-Cyrus, qu'on vient d'entendre et qui enseigne à l'université d'Aix-Marseille, a collaboré à cette édition et quand je lui ai demandé de quel mot il voulait parler, il n'a pas hésité bien longtemps.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Alors j'ai envie de vous parler du mot tarpin. Parce qu'il sonne bien, parce qu'il a une voyelle nasale N qui sonne bien du sud, et que c'est un mot très important en Marseille, très courant, mais aussi très emblématique. Tarpin, c'est simple, ça veut dire beaucoup. C'est un adverbe, hein, ça veut dire, voilà, il y avait tarpin de monde, il y avait beaucoup de monde, c'est tarpin bien, c'est très bien. Et ou alors on peut dire, alors tu as aimé cette émission? On peut répondre tout simplement, ah, tarpin. Alors c'est un mot à l'histoire intéressante parce qu'il est né, il est apparu en tout cas au début des années 90 à Marseille et c'était plutôt le centre-ville on va dire, pas les quartiers nord, pas les quartiers populaires et très vite en fait il s'est propagé chez tous les jeunes de Marseille, les ados, les jeunes adultes et il est devenu en quelques années, décennies, un mot non seulement très courant parce qu'on l'entend partout tout le temps, un mot qu'on voit dans des pubs, il y a des sites, il y a des t-shirts avec écrit ça tarpin, enfin c'est vraiment un mot omniprésent, mais en plus il est devenu emblématique.
Y a tarpin, problème, peu de solution, tarpin envie de voir mes frangins en permission. Faut on lève la tête et avance. Dis-toi que contrairement à d'autres, on a tarpin de chance.
Alors c'est un régionalisme qui s'est donc répandu dans toute la France. Comment est-ce que vous expliquez ce succès?
Alors ce mot s'est répandu, je pense, à travers les réseaux sociaux, avec des chanteurs, avec du rap, avec des influenceurs, des influenceuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir des jeunes dans différentes régions de France qui vont dire « Ah ouais, à Marseille, ils disent tarpin », donc c'est vraiment le mot qui identifie les Marseillais, mais aussi, on le voit, des jeunes à Paris, à Lyon, à Rennes, qui vont dire tarpin, pas forcément en sachant que ça vient de Marseille, mais en tout cas qu'ils l'ont récupéré au passage de la circulation des mots.
Alors, est-ce que vous avez des pistes sur l'étymologie de ce mot? Il vient d'où? Ça vient du provençal?
Alors ça, c'est le problème. On n'a pas de piste solide à laquelle on pourrait se rattacher. Ça vient pas du provençal, c'est sûr. Certains disent que ça viendrait du romani, donc du calot, c'est-à-dire d'en parler de gitan, mais il y a très peu de chances. En tout cas, on n'a rien trouvé du tout. Après, des gens me disent « Ah oui, mais ça vient de pétard ». Alors, pétard, l'interjection, pour marquer la surprise, pour s'exclamer « Oh pétard, je suis en retard, oh pétard, il fait chaud, etc. » qui aurait été ensuite inversé et donc ce pétard serait devenu un tarpé puis tarpin. J'y crois pas trop.
Selon la nouvelle édition du Petit Robert, le mot tarpin est un adverbe du sud-est de la France qui veut dire beaucoup, très, c'est tarpin bien.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la délégation générale à la langue française.
tous les nouveaux mots, les anciens aussi, dans l'édition du dictionnaire Le Petit Robert, édition 2026, sortie le 15 mai. Elle compte 110 000 mots et expressions et 350 000 définitions et exemples. Bientôt 8h en temps universel et bientôt l'heure de nous quitter. RFI Matin se termine en musique avec le duo français Synapson et la chanteuse Clou. Ils sont réunis sur le titre Nuit Blanche et c'est dans la sélection du mois de RFI. Titre Nuit Blanche est notre sélection du mois que vous retrouvez bien sûr sur musique.rfi.fr. RFI Matin se termine. Un merci à Jean-Pierre Pellon qui a réalisé ces 3 heures d'information. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. D'ici là, très bonne journée à l'écoute de la radio du monde.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Le pétrole et le gaz sont-ils des énergies incontournables au développement de l'Afrique et de son industrialisation ? La Côte d'Ivoire et le Sénégal exploitent de nouveaux gisements prometteurs. Nous donnons la parole à leurs promoteurs à l'occasion de l'Africa CEO Forum à Abidjan.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Le journal en français facile. Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale.
Je suis Jonathan, je viens de Toronto. J'écoute la journal en français facile parce que je peux apprendre un peu plus sur le monde de la point de vue de la France.
Le journal en français facile avec Adrien Delgrange, c'est tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.